Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Bonjour chers auditeurs, alors excusez-nous pour le retard, on a eu un problème technique sur le téléphone parce que c'est toujours très difficile suivant les endroits et les régions où on téléphone d'avoir les gens pour faire les émissions. On a eu un problème technique, donc voilà, excusez-nous chers auditeurs, bon, on est en retard, on a 17 minutes de retard. Voilà, donc l'émission Les Portes de la Connaissance aujourd'hui, c'est sur un sujet que vous avez découvert sur la page Facebook d'O2 Radio. Il s'agit aujourd'hui des sauveteurs en haute mer. Il s'agit des sauveteurs en haute mer et en haute montagne. Il s'agit de la Fosse Francis, qui a été pendant 35 ans, je répète bien, 35 années, sauveteur en haute mer et en haute montagne. Et il va nous parler de sa carrière et de ce métier si particulier que connaissent pas bien les gens, parce que vous avez souvent affaire à des sauveteurs quand vous êtes en détresse, mais vous ne les connaissez pas vraiment et vous ne savez pas quels sont les risques qu'ils encourent quand ils font ce métier pour venir vous sauver. Voilà, donc on va voir ça avec lui, on va faire une très belle émission ensemble. On a un peu de retard, donc l'émission sera un peu plus courte, désolé, vraiment désolé, mais bon, malheureusement, les problèmes techniques, on doit y faire face comme ça vient, voilà. Francis, bonjour.
Bonjour, toujours.
Alors, j'espère que la communication...
Allô?
Oui, j'espère que la communication sera bonne parce que ça passe très très mal et j'espère qu'on va vous entendre à la radio parce que il y a l'air d'avoir des coupures. Donc, on espère qu'on va vous entendre et que ça va aller. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, d'abord, c'est quoi sauveteur en haute mer et en haute montagne? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est avant de parler de votre carrière et est-ce que quels sont les risques encourus, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sauveteur, comment ça se passe?
Eh bien, là, vous me recevez là, c'est bien?
Oui, on vous reçoit très bien, c'est très clair.
Voilà, donc alors en ce qui me concerne, j'ai commencé ma carrière donc comme mécanicien truiste, copilote sur hélicoptère de la protection civile. Je dis protection civile parce qu'avant 1975, ça s'appelait comme ça, c'est devenu sécurité civile par après. Donc, sur pratiquement les premiers appareils qui sont arrivés à la création de ce groupement d'hélicoptères du ministère de l'Intérieur, c'était l'Alouette 2. Et l'Alouette 2, évidemment, quand elle s'est retrouvée dévolue au secours en mer et au secours côtier sur les toutes premières bases créées par le ministère de l'Intérieur, c'était quand même assez délicat et assez difficile d'intervenir en haute mer, même si on avait quand même une flottabilité de secours. Mais c'est un appareil assez petit. L'équipage était réduit donc à deux personnes. Éventuellement, on en prenait une troisième suivant les interventions à effectuer, mais c'était quand même les débuts. Hein. Donc, par la suite, est arrivée l'Alouette 3, qui nous permettait de faire davantage de choses parce que l'habitacle est un peu plus grand, la puissance de l'appareil l'est aussi. Et donc de la mer, je suis passé au secours SAMU, il n'y avait pas d'hélicoptère SAMU à l'époque, au secours SAMU, et appelé par l'apogée de ce travail de secours héliporté, je suis arrivé au début des années 80 à Chamonix, où je suis resté jusqu'à la fin de ma carrière avec Grenoble et mon départ en 2005.
D'accord. Alors, pourquoi avoir été sauveteur en haute mer et en haute montagne? Pourquoi ne pas tout simplement avoir fait une carrière de sauveteur en haute mer et puis en être resté à être sauveteur en haute mer. Pourquoi avoir choisi ce cursus voilà, pourquoi avoir choisi ce cursus?
Eh bien, parce que tout d'abord, ça correspondait, mon arrivée correspondait à une époque où pendant un certain laps de temps, on a recruté des gens assez jeunes. Moi, j'avais juste ma formation dans l'armée, dans la latte. J'avais 22 ans. Et puis, s'ouvrait devant moi, évidemment, en matière de secours à héliportés, sécurité civile, s'ouvrait toute une vie, toute une carrière. Et puis, je voulais découvrir ce qu'on pouvait faire en matière de secours à héliportés sur l'ensemble de la France, hein, que ce soit les missions de feu forêt dans les Landes, le secours en plage, par la suite la haute mer dans la région de Granville, avec des interventions du côté des îles anglo-normandes, pour arriver à l'apogée du métier de mécanicien truiste, c'est-à-dire la haute montagne. Et puis voilà, ça m'a le fait d'être arrivé assez jeune m'a donné du temps pour découvrir tout ce qui était possible de faire en matière de secours héliportés. Et je pense qu'au bout de 35 ans, il n'y a pas une seule mission qui m'est passée en dehors des mains, quoi.
D'accord. Alors, quand vous êtes sauveteur en haute mer, comment ça se passe? Dites-nous comment ça se passe. Voilà.
Alors, tout d'abord, comment ça se passe déjà en bordure de mer? En bordure de mer, et plus précisément là où il y a plus de victimes, c'est donc sur la côte d'Atlantique, on intervenait déjà avec l'Alouette 2, on a été les premiers à intervenir avec un médecin. Donc on se retrouvait à trois dans l'appareil, et puis on prenait un plongeur, c'est-à-dire un maître-nageur sur le poste de secours le plus proche, on le prenait à bord, il sautait sur la personne qui avait à récupérer ou en difficulté, et puis on lui descendait le câble, il nous la remontait, en fonction de son état, on le redéposait sur la plage, le médecin commençait à le médicaliser, à le réanimer si au besoin, et on allait le récupérer par la suite. Voilà ce qui était le scénario, et c'est encore le scénario qui se passe aujourd'hui. Mais disons que c'est plus pratique de garder le médecin à bord parce que l'appareil d'aujourd'hui est beaucoup plus puissant. Mais voilà ce qui se passe pour le secours en mer côtier. Donc par la suite, la difficulté, évidemment, c'est le secours en haute mer avec ce que j'avais à l'époque, la Alouette 2, la Alouette 3, un appareil où on faisait le maximum. Et là, il fallait absolument partir avec minimum un ou deux plongeurs pour intervenir sur les bateaux, les minéraliers, les accidents sur chalutiers. Alors on effectue l'hélitreuillage comme on peut, si c'est un naufrage, on récupère les personnes que l'on peut, et puis on rentre ou on les dépose sur un autre bateau. Enfin voilà la difficulté qu'on avait par un appareil qui était monoturbine, hein, et avec ce qu'on pouvait prendre comme personnel. Alors aujourd'hui, ce sont des biturbines, donc ils sont un peu plus qualifiés avec du vol sans visibilité déjà pour aller en haute mer que nous à l'époque. Mais voilà, en général, les appareils de la sécurité civile qui intervenaient, c'était parce qu'on n'était pas très loin du naufrage. Alors que, en notre absence, il fallait demander à des appareils beaucoup plus gros à l'époque de la marine française ou de la marine britannique, mais qui arrivaient bien sûr beaucoup plus tard.
D'accord. Alors, c'est quoi la difficulté de sauveteur en haute mer quand vous êtes, par exemple, vous avez une avarie sur un navire et qu'il faut récupérer des marins qui sont en haute mer et que vous avez une tempête? Parce que les conditions météo sont là aussi pour empêcher, je dirais, les sauveteurs de faire leur métier correctement. Est-ce que c'est pas un peu compliqué?
Alors, oui, c'est un peu la différence avec le secours en haute montagne. C'est que la difficulté n'est pas la même. Quand vous intervenez sur un bateau en perdition par mauvaise mer, L'hélico peut très bien rester, même si le vent est assez puissant, peut très bien rester assez stable. Tandis que la personne à hélitreuiller et le bateau sur lequel il faut intervenir, alors là, c'est tout le contraire. Il peut perdre plusieurs mètres de hauteur, il vogue dans tous les sens. Il y a beaucoup de risques pour la personne qui est pendue au bout du câble. Hein. Et le travail du mécanicien truiste est très très délicat, très très délicat, parce qu'il y a les câbles, il y a les mâts, il y a souvent on n'a pas de contact avec les gens qui sont sur le bateau, donc faut un peu correspondre par geste. C'est vraiment pas évident. Évidemment, ce genre de secours est beaucoup plus rare que les interventions qui sont effectuées en haute montagne.
Quand on est dans de mauvaises conditions météo, les marins en mer à sauver, quand on les voit, quand on voit des reportages sur ce genre de mission, c'est toujours très compliqué. Est-ce que justement il n'y a pas eu des problèmes de gens qui ne voulaient pas se faire hélitreuiller parce que il y avait une paralysie, une peur, je dirais, de pouvoir monter dans un hélicoptère par hélitreuillage? C'est assez compliqué.
Oui, j'ai moi-même vécu l'accident type de ce genre où il fallait évacuer 8 personnes composant l'équipage d'un transporteur de pétrole de la Shell Petroleum à l'époque. Et puis là, bon, j'ai tout connu parce que j'avais un treuil assez limité en longueur de câble qui était de 25 mètres, c'était une alouette 2. On n'était heureusement pas très loin de la berge, on pouvait en hélitreuiller 2 et les déposer en haut de la falaise, revenir par la suite alors que l'appareil était bousculé par les vagues contre les rochers. Il y a eu explosion des machines, il y a eu beaucoup de fumée qui s'est dégagée, ça aurait pu éteindre notre turbine, il a fallu s'en écarter. J'ai eu un marin qui comprenait rien et il pensait bien faire. Hein, il a attrapé mon câble et puis il a accroché à la rambarde du pétrolier. Donc pour nous c'est catastrophique. Si on n'arrive pas à faire enlever cette situation, à sortir de ça, on est obligé de couper le câble et puis la mission est terminée. Donc bon, c'est finalement il m'a compris par geste. Alors il y a comme on n'avait pas de sauveteur, moi je lui balançais la sangle au bout du câble. Il n'y avait plus qu'à s'installer dedans. Mais il faut la mettre sous les bras et non pas s'asseoir, parce que si ça s'assoit dedans, il peut basculer et retomber à la mer. Vous voyez, on a eu toutes sortes d'inconvénients comme ça. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Parfois, ben, on blesse un marin parce que au passage, il cogne un mât, il cogne un câble. C'est jamais gagné à 100%. Et puis, il faut sans cesse faire preuve d'initiative, de calme et de sang-froid, bien évidemment.
Est-ce que vous avez eu des missions, parce que apparemment ce sont des missions pour des marins en mer, en haute mer, des professionnels. Est-ce que vous avez eu des missions sur des bateaux civils, des petits navires, voilà. Est-ce que vous en avez eu, et est-ce que c'est plus compliqué que des missions en haute mer sur des gens qui sont des professionnels? Quelle est la différence?
En fait, non. La mission à haute mer est difficile par le fait que il faut le carburant nécessaire. Il faut pas non plus tourner pendant des heures avant de repérer le bateau, parce que arrive à un moment donné, on est en manque de carburant. Mais que ce soit sur les gros bateaux, il y a même des gros bateaux. S'ils sont stables, on peut se poser dessus. Hein. On est arrivé de nous poser sur un minéralier pour aller chercher à fond de cale un marin victime d'un AVC. Mais le plus souvent, là, dans ces secteurs de la Manche et de la mer du Nord, l'hélico intervenait pour un peu comme une ambulance intervient dans une en plaine. Hein. Nous, on intervient avec un médecin sur les accidents de pêcheurs et sur les petits bateaux de pêche. Hein, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le pont. Et puis là, eh bien, il faut déposer le médecin au centre blessé. Bon, il médicalise, on le remonte pour les accidents du travail qui sont assez nombreux dans le domaine de la pêche. Après, il peut y avoir des recherches et puis sur des plaisanciers, des voiliers qui se sont retournés. Voilà, on voit la personne qui est sur la coque, transit de froid. Bon, ben voilà, ça c'est le travail du sauveteur que l'on dépose à bout de câble. Il nous l'accroche, on remonte le tout. Il faut l'état de la mer est très important, hein, parce que travailler sur un point qui est déstabilisé en hauteur et dans tous les sens, là c'est vraiment pas évident pour les vitroyages.
Et quand vous avez un vent de travers qui est important, de 120 ou 130 km à l'heure, est-ce que c'est pas des conditions qui sont presque impossibles pour pouvoir faire du sauvetage en haute mer? Parce que je suppose qu'il y a des conditions qui sont limites quand même.
Voilà, alors évidemment, au départ, si on a une force de vent qui est supérieure à la norme autorisée, et bien, dès le départ, on ne part pas. Hein, voilà. Donc on ne part pas non plus dans n'importe quelle condition. Hein. En mer, s'il y a trop de vent, on le sait au départ, il est annoncé, bon ben on refuse la mission, c'est pas la peine. Hein.
D'accord. Donc il y a quand même, mais alors le problème, si vous voulez, c'est que quand on peut pas secourir les gens qui sont en détresse en haute mer, ça doit être drôlement frustrant, parce que vous avez une mission de sauver des gens qui sont en détresse, vous pouvez pas y aller parce que les vents sont trop violents. On doit avoir l'impression de ne pas pouvoir sauver les personnes qui sont en détresse. C'est quoi le sentiment?
Eh bien. On retrouve ça partout, hein, que ce soit en mer à cause du vent ou la brume de mer, et la montagne qui est recouverte par la météo, bon là on peut pas y aller non plus. Alors bon, suivant les conditions géographiques, on essaye éventuellement d'amener les sauveteurs au plus près, et puis ils finissent la mission à pied. Mais évidemment, pour nous, faire demi-tour sur un secours à cause de la météo, évidemment, c'est frustrant, d'autant plus qu'on reste à la base disposé à guetter la moindre amélioration, et on suit les événements par la radio. Quand on a un contact radio avec soit les victimes et soit les sauveteurs, on suit les événements. Là, on est un petit peu en attente, les pieds dans les calepiers des sprinteurs, mais toujours prêts à repartir. On retente des fois, une deuxième fois, mais on évite de se laisser trop emmener par l'attrait de la mission et de ne pas tomber dans le piège. Hein. Ça c'est une chose qu'il faut faire avec. Il faut éviter évidemment l'expérience. Quand on s'est fait prendre une fois ou deux, avec l'expérience, on n'y retourne pas une troisième fois. Hein. Mais voilà, évidemment, c'est frustrant. Tout secours qui nous est interdit, ou tout secours où on arrive trop tard pour la survie de la victime, c'est pour nous un regret, évidemment. Hein.
Alors, je vous rappelle pour nos auditeurs qu'on est en direct avec François Delafosse, qui est sauveteur en haute mer et en haute montagne. Voilà, on va parler dans la suite de l'émission des sauvetages en haute montagne, parce qu'on a parlé des sauvetages en haute mer, on va parler des sauvetages en haute montagne. Voilà, et en attendant, on fait une petite page de musique et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vous dis à tout de suite.
La sirène sonne au milieu de la nuit. Ils sortent de leur lit pour rejoindre leur navire. Des SNSM, celle que tu languis. Elle qui sauvera ton navire des abysses. J'ai perdu là-bas au milieu de la mer. Tu as peur pour tes enfants, tu pries pour que l'on t'aide. Pense à SNSM, ces hommes de la mer qui abandonneront tout pour te venir en aide. Pour que cette eau salée, jamais le goût des larmes, tu as besoin d'eux en mer, que de toi sur la terre. N'oublie pas plaisancier, peut-être un jour, qui sait, tu devras composer le 196. Pour être secouru, tu leur crieras m'aider. Comme ils seront là, ils te viendront en aide. Ils s'appellent Aurélie, Patrick ou bien Néné. Ce sont des sauveteurs de la SNSM. À donner leur vie pour vous sauver. Car pour eux secourir, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Pour que cette eau salée, jamais le goût des larmes. Tu as besoin d'eux en mer, que de toi sur la terre. Mais toutes ces stations sont des associations qui fonctionnent en partie grâce à vos dons. Qu'elles continuent leur mission. Elles ont besoin de votre contribution. Les sauveteurs en mer sont là pour secourir. Ils volent au secours des marins en détresse. Et vous, gens de la mer, devez les soutenir pour qu'ils puissent continuer à vous venir en aide. Pour que cette eau salée, jamais le goût des larmes. Tu as besoin d'eux en mer, que de toi sur la terre.
Le courage vous est offert. Pour le reste, nous avons besoin de vous.
Alors voilà, après cette très belle chanson qui représente un petit peu le sauvetage en haute mer, justement en l'honneur de ces gens qui risquent leur vie pour vous sauver, n'oubliez jamais, jamais ça les auditeurs, si vous avez un jour un problème, c'est grâce à ces gens qui risquent leur vie pour vous que vous pouvez reprendre les pieds sur terre et vous en sortir, voilà. Donc on est en direct avec l'émission Les Portes de la Connaissance avec François Delafosse aujourd'hui qui nous parle de sa carrière de sauveteur en haute mer, et là on va passer au sauvetage en haute montagne parce qu'il a été aussi sauveteur en haute montagne et on va parler de sa carrière en haute montagne. Alors c'est quoi la différence entre la haute mer et la haute montagne? Les risques ne sont pas les mêmes, je suppose que les risques ne sont pas les mêmes, alors expliquez-nous un peu.
Alors, j'ai une précision, mon prénom c'est Francis, c'est pas François. Et pas François. Donc oui, alors la haute montagne, alors, il se trouve que la haute montagne, c'est en France, c'est Chamonix, Annecy, Grenoble, et ce sont les régions dans lesquelles j'ai effectué le plus de missions. Alors, les différences sont tout autres, puisque en montagne, l'altitude fait perdre de la puissance à l'appareil. Ce qui fait que s'il est dans un vent ascendant, il gagne en performance, mais s'il est dans un vent rabattant, il peut ne jamais se retrouver en capacité d'atteindre le sommet. Alors, donc, ce phénomène-là, le deuxième, c'est donc la météo où les nuages peuvent vous arriver dessus à une très très grande vitesse. Hein, vous êtes dans le ciel bleu, vous l'avez pas vu arriver, derrière vous, un nuage arrive, vous enveloppe, et puis on perd toute référence, le pilotage devient impossible. Ensuite, il y a les treuillages que l'on effectue en paroi. Alors, quand on voit les pales qui frôlent les parois, c'est assez spectaculaire, mais ça se fera que s'il n'y a pas de vent, et ça présente pratiquement pas de danger, sauf que le danger dans lequel on est confronté et qu'on ne verra pas arriver, hein, surtout dans cette disposition-là, ce sont les chutes de pierre. Les chutes de pierre, peut-être provoquées par une cordée un peu plus haut qui se demande ce qui se passe en bas. Vous voyez, une simple pierre, et puis la loi 3 qu'on avait à l'époque se retrouve par terre, quoi. Hein, même le nouvel appareil disposés, qu'on dispose aujourd'hui, une chute de pierre, il y a des blocs qui sont énormes, hein, comme des poids lourds. L'hélico, il fait triste mine à côté. Hein. Et puis parfois, ça tombe un peu plus loin, et bon, quand on assiste à ça, c'est assez effrayant. Voilà ce qui peut. Alors, il y a aussi l'inconvénient, c'est que quand on a un appel, avec évidemment l'apparition du portable, quand ça passe et quand il n'y a pas de problème, on a des précisions. Mais à mon époque, il n'existait pas. Et puis, on savait qu'il y avait un problème, c'était retransmis d'un refuge à quelqu'un d'autre. Et puis, mais on savait pas exactement ce qui se passait. Et donc. On y va comme si c'était toujours des cas graves, et puis parfois ça l'était pas vraiment, mais voilà, c'est cette imprécision de l'appel qui fait que ça rajoute une complication supplémentaire à la mission.
Qu'est-ce qu'on a comme moyen aujourd'hui pour savoir que des personnes sont en détresse, soit par une avalanche, soit par une détresse de quelqu'un qui fait de l'alpinisme, quels sont les moyens qu'ils ont pour vous prévenir quand ils sont en haute montagne?
Inévitablement, maintenant, c'est le portable. Hein,
oui, mais en haute montagne, on a peut-être justement des coupures de réseau. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'en haute montagne, on n'est pas toujours
de réseau. À ce moment-là, ça fait comme. On travaille comme à l'ancienne. Hein, c'est un témoin qui essaye de rejoindre le refuge le plus proche, et avec la radio classique, appelle le PGHM, c'est-à-dire le poste de gendarmerie de haute montagne, hein, et donc voilà, c'est avant l'apparition du portable, c'était comme ça, hein, on pouvait arriver assez tardivement sur un secours, hein. Évidemment, ça enlevait beaucoup de chance à la victime, soit ensevelie par une avalanche, soit tombée au fond d'une crevasse. Il fallait toujours un intermédiaire pour trouver quelqu'un qui avait soit une radio, un guide, qui a une radio avec la compagnie des guides, une radio classique, en dehors du portable. Mais maintenant, il est certain que l'appareil du portable... permet d'arriver beaucoup plus rapidement, quoi. Et surtout aux personnes de se situer. Ça, c'est aussi important quand on peut situer et puis pas perdre du temps à repérer, parce qu'on sait pas exactement dans quelle vallée, dans quel vallon, dans quel endroit il se trouve, quoi.
Oui, parce que les points de repère, c'est comme en haute mer. On n'a pas de repère. C'est à la boussole, sur l'hélicoptère, de pouvoir se diriger nord, sud, est, ouest. Et on n'a pas de repère précis. C'est pas une carte avec des maisons, avec des villages. Donc ça doit être quand même assez compliqué.
Oui, les pics ont des noms, les vallées ont des noms. On emmène des guides de montagne de la gendarmerie qui connaissent quand même leur secteur. J'avais remarqué ça quand je suis arrivé. Moi, venant de la mer, je comprenais pas qu'on perdait des heures à faire de la recherche sur des personnes perdues en forêt ou en montagne. Je comprenais pas que il y avait pas les systèmes de fusées comme j'avais connu sur les bateaux. Et effectivement, ça se faisait pas, quoi, en montagne, ça se faisait pas. Alors que souvent on aurait pu repérer quelqu'un beaucoup plus rapidement si à l'écoute de l'hélicoptère qui tourne dans le secteur, elle nous balançait une fusée, qu'elle soit verte ou rouge ou bleue, qu'importe, mais qu'elle nous balançait une fusée comme des fusées de détresse qu'on a sur les bateaux d'une manière obligatoire. Et c'est des habitudes qui font que en mer ça se passe comme ça, et puis en montagne autrement, et c'est difficile de faire changer les habitudes.
Quand on est sur un sauvetage en haute montagne et que on est par exemple sur le sauvetage d'un alpiniste en détresse sur une paroi verticale quand il est à sauver parce qu'il est accroché, est-ce que ça vous est arrivé de sauver quelqu'un qui ne pouvait pas monter au sommet parce qu'il avait des problèmes d'avarie à son système de cordes et de harnais. Est-ce que ça vous est arrivé?
Ben oui, alors oui, bien sûr, mais des dizaines de fois, parce que on intervient non seulement pour des personnes qui ont chuté, parce que évidemment, la mort est omniprésente hein, dans ce secteur, et puis on laisse pas les cadavres en la montagne, on les récupère, aussi bien pour les personnes qui sont blessées, victimes d'une chute de pierre ou autre, hein, qui ne peuvent plus évoluer donc dans leur ascension parce que ils ont une main gravement ou une jambe gravement blessée, mais aussi des gens qui n'ont rien, mais qui, comme vous dites, qui ne peuvent plus continuer parce que il y a l'épuisement, où ils ont perdu leur matériel, où ils sont perdus, et là, physiquement, ils n'ont rien, hein, à part peut-être un peu épuisé, un peu en hypothermie, mais ils n'ont rien, mais il faut que l'hélico les récupère parce que leur état ne va pas s'arranger avec le temps, hein. Donc, vous voyez, il y a trois sortes de victimes, trois sortes d'interventions comme ça, concernant tous ces gens qui fréquentent la montagne.
D'accord. Et après, quand on a des avalanches, par exemple, on fait souvent appel aux chiens pour rechercher les gens qui sont enfouis sous la neige quand il y a des avalanches. Mais comment ça se passe en hélicoptère?
Eh bien, c'est assez artisanal parce que si en milieu hospitalier, il y a des scanners et des RMI pour voir à l'intérieur d'un cerveau ou d'un corps humain, on n'a toujours pas l'appareil pour voir à l'intérieur de la neige. Et on est pour détecter les personnes ensevelies, il y a toujours le bon vieux chien. Hein. Alors, c'est pas forcément des gros bergers allemands de la gendarmerie qui sont les plus performants. Hein. Il peut y avoir aussi bien des petits chiens truffiers qui ont un odorat bien aiguisé, et puis on les descend avec leur maître chien sur la zone, plus souvent par élytroyage, hein, donc le chien, ils adorent ça d'ailleurs, et puis voilà, à ce moment-là, il commence à faire sa recherche. On transporte également beaucoup de personnel quand il y a une avalanche, parce qu'il faut mettre les sauveteurs en ligne avec une sonde d'avalanche. Donc il faut transporter le personnel et les sondes, hein, et puis travailler assez rapidement, parce que plus le temps passe, et une personne sous une avalanche, plus le temps passe, plus ses chances s'amenuisent, quoi.
D'accord. Alors, quand on récupère des gens qui sont perdus, qui sont dans des conditions, je dirais, de fatigue intense, parce que quand vous êtes, par exemple, perdu en haute montagne, vous avez la fatigue et le froid qui paralysent la personne et qui fait que ses conditions de santé sont extrêmement déplorables. Comment ça se passe? L'hélitreuillage, il y a une personne qui descend avec le trail et qui va récupérer la personne, ou la personne se met sur le harnais et monte, mais c'est normalement pas possible puisque vous êtes là pour secourir, donc vous envoyez du personnel, du monde sur le plateau pour récupérer la personne. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors tout dépend de l'altitude, parce que si l'altitude est extrême, et comme je vous le disais tout à l'heure, si les performances de l'hélicoptère sont réduites par les conditions météo, il faut y aller le plus léger possible. Alors on y va avec un minimum de pétrole et un minimum de personnes. Ça devient rare aujourd'hui parce que l'hélicoptère qui est utilisé aujourd'hui est hyper puissant. Hein, c'est un biturbine qui est très adapté au secours en montagne. Mais à mon époque, avec l'Alouette 3, ça, on procédait comme ça. On y allait avec moins de carburant, on y allait qu'à deux. Et on n'avait pas de sauveteur. Alors à ce moment-là, au triage, on descend la sangle et la personne tente de s'accrocher par elle-même. Hein. Ou alors on se pose à côté, parce que quand on fait un hélitreuillage et qu'on a une réserve de puissance, et si on n'a pas de puissance du tout, on est obligé de se poser à côté. Donc on se pose à côté et puis on l'attrape comme on peut, on l'embarque comme ça. Alors, dans ce qui est des recherches, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que quand vous avez une personne qui est perdu en montagne, qui est perdu en zone naturelle, en forêt, quelque part, dans des endroits isolés comme ça, pendant 2-3 jours, quand vous les récupérez, on peut pas savoir qui elle a été avant de partir. Hein. Ça peut être un personnage très important, ça peut être tout ce qu'on veut, un haut gradé ou grand professeur ou grand patron. Quand vous avez été perdu et quand vous avez été isolé dans la nature pendant 2 ou 3 jours, vous ressemblez à SDF comme tous les SDF. Hein. Et la personne est psychologiquement diminuée, physiquement, psychologiquement, en fonction de si elle a pu boire, si elle a pu manger, si elle a eu peur, si sa résistance morale, etc. Et ça c'est quelque chose que j'avais remarqué en disant qu'il faut pas longtemps à l'être humain pour redevenir ce qu'il est en fait au départ, quoi.
D'accord. Alors, pour résumer, la différence, en fait, les différences entre le sauvetage en haute mer et haute montagne, c'est que les conditions ne sont pas du tout les mêmes et on a affaire à des plateaux, des montagnes, alors que la mer, c'est quelque chose de liquide. On a des différences dans le sauvetage qui sont complètement différentes, ça n'a rien à voir. Et je pense que la conclusion de cette émission, c'est que de toute façon, quand on est sauveteur et qu'on est capable de le faire les deux, c'est qu'on est vraiment doué pour le sauvetage. Voilà. Merci beaucoup Francis, merci beaucoup pour ce beau témoignage. On va parler de votre livre. Vous avez sorti un livre, je crois.
Alors, oui, quand j'ai pris la retraite, puis bon, comme j'étais un des rares à effectuer sur l'ensemble de la France autant de secours par hélicoptère, voilà, je me suis dit, je vais raconter ça d'abord pour mes enfants qui ignoraient tout de mon métier. Et puis finalement, un peu poussé par l'un par l'autre, c'est devenu un livre. C'est devenu un livre que j'ai édité à compte d'auteur, qui s'appelle « Au cœur de l'Alouette », et que je vends directement, soit par contact mail aesb38@gmail.com, soit par téléphone 07 87 46 34 42. Et donc sur Facebook, sur Internet, je suis très présent. J'en ai déjà vendu énormément. Et puis ça m'a permis de raconter mes débuts dans pourquoi, quand on est né dans le nord de la France et qu'on se retrouve à faire du secours hélicoptère à Chamonix, quel a été le cheminement exact, hein, quelles a été les difficultés, quelles a été les décisions à prendre, jusqu'à mon passage aussi bien en mer, en plaine et en haute montagne, avec sur 5000 missions de transport, de secours et de sauvetage. Et bien sûr, j'ai pas pu raconter les 5000 parce que beaucoup se ressemblent, mais j'ai retiré à l'intérieur de ça les anecdotes et puis les missions les plus incroyables, les plus qui vont étonner le grand public. Et je dirais pas de 7 à 77 ans, parce que il y a quand même des passages assez difficiles, donc on peut donner ça à peu près à un ado jusque assez tard, puisque mon client plus ancien avait 96 ans. Et puis c'est décrit simplement, ce n'est pas de la haute littérature, c'est décrit comme du témoignage journalistique, et ça plaît énormément parce que c'est vrai, parce que moi je raconte, même si c'est extraordinaire, j'ai hésité parfois à le raconter, mais voilà, t'as vu ça, t'as entendu ça, t'as vécu ça, donc tu le racontes. Et puis ça fait un livre de... Je me suis limité à 280 pages, il y a une centaine de photos et il y a 4 QR codes qui vous permet de vous renvoyer sur des films de l'époque, FR3, Antenne 2, des reportages de l'époque.
D'accord. Merci beaucoup. Merci Francis infiniment. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur les émissions de radio du vendredi des Portes de la Connaissance. Vous pourrez en écouter à nouveau les coordonnées de ce monsieur si vous voulez acheter ses livres. Je vous le conseille. C'est un métier à part. C'est un métier exceptionnel et ce genre de témoignage est plutôt pas courant. Donc n'hésitez pas à écouter l'émission. N'hésitez pas à contacter Francis. Voilà. Merci beaucoup Francis. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Sachez que l'émission prochaine, ce sera Joseph Castolet qui est ingénieur en construction, qui vous parlera des anciennes civilisations vendredi prochain. Voilà, merci à tous et encore mille excuses pour ce problème technique. Voilà, excusez-moi pour avoir écorché son nom. Ce n'était pas François, c'était Francis. Voilà, excusez-moi. Voilà, merci infiniment, chers auditeurs, et je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup, Francis.
Au revoir à tous. Au revoir.
Les portes de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.